improviser pareil marché dans l'ignorance de tous les rites, sans les formules évocatoires, sans cercle ou talisman de protection, est une dangereuse folie. Au mieux, elle peut conduire à l'échec, au pire, au déchaînement des forces que l'on sollicite. Mais dans la détresse qui était la sienne, inconscient de l'étendue du nouveau péril qu'il convoquait pour se soustraire à celui où il se débattait déjà, le chevalier aux épines lança ses mots avec la force du désespoir. Quoiqu'il fût dépourvu de tout talent magique, il fut entendu. En fait, ce fut moins sa parole que sa voix qui fit vibrer les âmes souffrantes, car elle était pleine d'échos des existences qu'il avait déjà consommées. Edan de Vaumacel n'était ni enchanteur ni revenant, mais il était devenu lui-même figure enchantée, et ce fut sans doute l'envoûtement dont l'homme était réceptacle qui parvint à se signaler aux ombres. En tout cas, avant même qu'il ne s'en aperçût, le preux devait payer un prix dont un mortel ordinaire ne se serait pas relevé. Quoi qu'il en fût, la trombe angoissée qui enveloppait les marcheurs parut se desserrer, et soulagés par cette accalmie, ils purent à nouveau progresser vers le sommet de l'arche. Des statues montaient une garde sévère au-dessus des dernières marches. Le chevalier de Vaumacel fixa son regard sur ses effigies pour conjurer les séductions du vide et le sabbat des esprits. Il lui fallut de longs instants pour identifier le gardien de pierre qui le toisait de sa prunelle aveugle. Il ne restait plus qu'une dizaine de marches quand l'attention d'Edan s'arrêta sur les armoiries sculptées. Usée par le passage des saisons, une rose pointée et tigée ornait le grand écu de marbre. Incrédule, le chevalier considéra le visage minéral et éprouva le frisson dont on peut être saisi en se retrouvant par surprise devant un miroir.
« Il a l'air presque aussi dur que vous, »
persifla la duchesse. Sans répondre, le chevalier aux épines l'entraîna vers le haut. Tout en sautillant de cahoteux entrechats, Odéard de psalmodia.
« C'est Nargin, vous avez vu. Il vous a intégré dans son grand œuvre de pierre. C'est un avertissement. Il vous interdit le passage. »
Mais le sire de Vaumacel n'en tint aucun compte. Lorsqu'il atteignit le castel d'Ingremance, il franchit le parapet gardé par les statues, contraignit sa prisonnière à le suivre, puis revint sur ses pas pour aider ses compagnons à se hisser sur les dernières marches. Malgré les hurlements de l'orchestre éolien et la plainte des esprits tourmentés, les fugitifs entendirent une clameur venue des chemins de ronde. Les gens de verre les défiaient de redescendre tout en moquant cette fuite sans issue. Mais ce fut la course du dernier d'entre eux qui retint surtout l'attention des ravisseurs. Après avoir assuré leurs arrières, le chevalier Auget avait gravi avec légèreté l'escalier courbe du castel du Phêtre. Il arrivait seulement au pied de l'arche. Nem paraissait trop souffrant et épuisé pour lui faire signe. Mais les deux chevaliers, et jusqu'à quel, lui lancèrent des encouragements quand il fallut franchir l'abîme. Le hardi Cadelin, du reste, n'en avait guère besoin. Il s'élança sur la voie étroite avec une désinvolture gracieuse, remontant 4 à 4 les degrés traîtres. Des vapeurs funestes flottaient parfois autour de sa course. Tout au plus les écartait-il d'une main négligente. Il était arrivé à mi-pente quand un gros oiseau porté par un coup de vent se mit à voltiger au milieu de la dérive des nuées. Poussant des appels rauques, le volatile brun avait des rémiges striées de noir et de bleu. Son vol était erratique, virant sur l'aile quand un suaire de brume risquait de l'effleurer. Cette livrée bigarrée et ses cris le désignait sans ambiguïté comme un jet des chaînes, bizarrement égaré dans ce royaume de freux, de fantômes et de corneilles. Cadelin, reconnaissant son familier, l'appela. et comme l'oiseau effrayé par le vacarme et les hantises tournoyait dans les airs sans oser le rejoindre, l'aventureux ralentit en lui tendant le poing. Ce geste scella son destin. Un premier projectile surgit du bas, frôla le chevalier au jet avant de se perdre dans les turbulences désincarnées. Penché sur le parapet du castel d'Ingremance, Hameline lui cria une mise en garde. Mais il était déjà trop tard. Un deuxième carreau d'arbalète vint se ficher de biais dans le bouclier de l'aventureux. L'impact déséquilibra Cadelin. Il faillit être déporté, mais, avec une souplesse féline, parvint à ébaucher un rétablissement. Hélas, un troisième tir le toucha en pleine tête. Le trait arrivé en oblique ricocha contre l'arrondi du haume. Le coup suffit toutefois à faire dévier l'oiseleur de sa trajectoire. Avec une lenteur irréelle, il bascula sur le côté de l'arc boutant. Sa splendide armure de Cyane et son élégante cotte d'armes chatoyèrent une dernière fois, tandis qu'il s'amenuisait dans l'abîme. Il s'engloutit dans le brouillard soufflé par la rivière, avant même de heurter la surface des flots. Ses compagnons horrifiés, penchés sur le garde-fou, ne purent voir où il s'était écrasé. Ils n'entendirent même pas le choc dont l'écho fut couvert par les hurlements de victoire des arbalétriers. Le jet, désemparé, plana quelques instants au-dessus de l'arche déserte. Puis, avec un jacassement éperdu, piqua vers le fond du défilé. C'est la fin de l'aventure, augura la duchesse avec une cruauté satisfaite. Vous venez de perdre le seul chevalier encore valide. Vous n'avez plus d'issue. Mon fils va vous donner l'assaut. Il serait si vain de continuer le combat que cela ne sauverait même pas l'honneur. Que faire, sinon déposer les armes?
Que faire? En terminer selon mon idée, gronda Hameline. Et tirant sa dague, il claudiqua vers la dame.
Le sire de Vaumacel s'interposa une fois de plus. Sire Hameline, je partage votre peine et votre désir de justice, mais accordons ce point à Dame Odéarde, nous sommes presque aux abois. L'action dictée par votre colère nous condamnera plus sûrement que l'hostilité dont nous sommes l'objet.
Si nous n'en finissons point, Cadelin sera tombé en pure perte.
Il n'a pu mourir en vain. Aussi faut-il que nous restions en vie pour rendre honneur à son sacrifice. Et si vous frappez la duchesse, nous perdrons tout espoir de le faire. Méléagan nous massacrera et peut-être pire encore.
C'est assez balancé.
Ils nous tueront, certes, mais nous aurons purifié la société de cette abomination. Si nous perpétrons ce geste dans l'enceinte de verre, rien ne nous le garantit. Il nous faut d'abord en sortir, Sire Hameline.
Comme pour appuyer ses dires, un piétinement nombreux fit trembler les galeries de bois du castel d'Ingremance quelques étages plus bas.
Regagnons les Luiselles, pressa Edan. Nous pourrons plus facilement y échapper à nos poursuivants.
S'ils n'y sont pas avant nous, grinça le chevalier au pis.
Mais comme rattrapé par l'accablement, il baissa sa lame et détourna le regard de la duchesse. Il s'attarda un instant à contempler le gouffre où son compagnon venait de disparaître. Autour d'eux, les hurlements du vent chantaient presque un hymne funèbre. Indifférent au drame comme à la querelle, qu'elle s'était déjà précipitée un peu plus loin, remontant les trois balcons qui longeaient la muraille, il retrouva la petite poterne dont il avait gardé le souvenir. Il essaya vainement de l'ouvrir, se heurtant à une serrure grippée, et appela les adultes à grands cris. Quoiqu'il fût mal en point, Nem rejoignit le page et força l'entrée d'un coup d'épaule. La porte céda difficilement en raclant le seuil. Avant même qu'ils ne missent le pied à l'intérieur,
l'écuyer et le petit valet furent cinglés par la bourrasque qui s'engouffra dans ce pertuis. Comme poussé par ce coup de vent, Kell bondit à l'intérieur. Au bout de quelques pas, il fut arrêté par une vieille main courante au-dessus d'un puits lambrissé de rayonnages et de coffres. « La librairie du mage !» s'écria-t-il. « On est presque en haut !» Le sire de Vaumacelle s'effaça d'abord devant le chevalier au pis, puis poussa fermement la duchesse devant lui. Ayant franchi la porte basse, qui perçait un court corridor dans l'épaisseur du mur, ils aboutirent sur l'une des nombreuses loggias de la bibliothèque d'Ingremence, située à mi-hauteur de la pièce. Niché entre deux grosses armoires, lui avait échappé à leur vigilance lors de leur première traversée des lieux. Bien qu'ils fussent désormais très proches de la salle des évocations qui leur offrait l'espoir d'une voie de repli, le spectacle qui s'offrit au regard n'avait rien de réconfortant. Un terrible courant d'air était entré avec les fuyards et soulevait la poussière séculaire des lutrins, des coffres et des vieux codex. Ces panaches cendreux esquissaient des figures caves, des carcasses efflanquées et des membres rachitiques qui s'affolaient le long des rayonnages ou fusaient vers la demi-voûte en ogive. Ils sifflaient des airs transis dans les balustres et les charpentes des galeries, ouvraient brutalement d'antiques ouvrages dont les feuillets tournaient avec sécheresse. Un danger plus tangible capta toutefois l'attention des fugitifs. Au bas de la pièce, trois toises sous leurs pieds, quelques sergents de verre venaient d'entrer par la porte que les assaillants avaient laissée ouverte au cours de leur intrusion. La violence du courant d'air et les figures sinistres qui le hantaient firent lever le nez aux gens de guerre. Les regards des deux parties se croisèrent. Aussitôt, les hommes de Méléagan crièrent « Haro ! » L'entrée dans la bibliothèque dégorgea en un instant une terrible bousculade de carrures cuirassées, parmi lesquelles émergèrent les grands harnois de Méléagan et de Fitzurse du Havne. Avec une voix stridente, Odéhard appela son fils, et celui-ci, désignant de l'épée les escaliers menant aux galeries supérieures, ordonna l'assaut. Une fois de plus, Kell réagit le premier. Saisissant une pile de gros livres à fermoir, il les jeta par-dessus la balustrade. Ses trois compagnons suivirent aussitôt son exemple. Escabelle, coffre, lutrin s'abattirent à grand fracas sur la troupe qui tentait de gagner la première volée de marche. Après avoir reculé en désordre, les sergents firent une seconde tentative, en improvisant une tortue. Les chevaliers aux pies et aux épines traînèrent alors une armoire remplie de grands ouvrages qu'ils entreprirent de faire basculer par-dessus la main courante. Le meuble était si lourd qu'il arracha 5 pieds de rambarde en versant dans le vide. Les débris du garde-fou et la bibliothèque se rompirent sur le sol dans un tumulte assourdissant, soulevant un panache d'éclisses, de poussière et de pages arrachées. Deux malheureux furent écrasés par la chute. L'un d'eux, encore en vie, se mit à pousser des cris déchirants. Fragilisé par l'agitation des combattants cuirassés et par la rupture du garde-corps, la loggia qu'occupaient les fugitifs se mit à grincer de façon inquiétante. Plus bas, les gens de verre eurent d'abord un mouvement de recul devant l'énorme projectile qui venait de se fracasser sur deux des leurs. Il s'ensuivit un instant de flottement. Il ne fut pas perdu pour tout le monde. Profitant de l'irrésolution générale, l'un des chevaliers de verre bondit, piétina les débris du meuble et ses victimes, parvint à atteindre l'escalier. C'était une volée de marche fort étroite qui grimpait le long du mur jusqu'à la mezzanine située sous le parquet branlant que tenaient les ravisseurs. Mais à partir du moment où l'audacieux avait atteint l'étagement des galeries, il était à couvert des chutes de projectiles.
« Tenez bon, madame » criait-il. « Je vais vous délivrer de ces félons !»
Il tonnait avec la voix furieuse de Fitzurse du Havne. Son exemple ranima le courage de la soldatesque, qui se rua sur ses talons. Kell et Nem se remirent à les lapider avec tout ce qui leur tombait sous la main. De son côté, en dépit de sa mauvaise jambe, le chevalier Opi se précipita à la rencontre des assaillants. Il s'appropria au passage l'épée que Nem avait confisquée au sire de Thèves. L'aventureux paraissait davantage animé par un coup de colère que par le dessein de se défendre. Malgré la confusion et la poussière, il avait reconnu les couleurs sombres du Dolan. Sa haine contre l'ordre dévoyé se trouvant décuplée par la mort de Cadelin, sans doute perdit-il son sang-froid et se laissa-t-il submerger par son ressentiment. Grimpant les marches 4 à 4, le chevalier du Hafne gagna la première loggia, et de là parvint même à se hisser jusqu'à la moitié de la deuxième volée avant de se heurter à Sir Hamelin. Bien que la teinte sombre de sa cotte d'armes bût son sang et rendît ses blessures peu visibles, Fitzurse n'en était pas moins touché, plus gravement que le chevalier au pic qui, de surcroît, conservait l'avantage de la position. Mais le soupirant malheureux de la duchesse était porté par une fureur aussi puissante que celle de son adversaire. Le duel qu'ils avaient failli avoir quelques jours plus tôt se déchaîna à mi-hauteur de la bibliothèque abandonnée, sur un escalier vermoulu dont les degrés grinçaient et ployaient sous chaque mouvement. La montée étant trop raide et trop étroite pour permettre le passage de plus d'un individu à la fois, le sire de Vaumacel, légèrement en surplomb de l'Oiseleur, ne pouvait s'attaquer au chevalier du Havne en contrebas. Celui-ci se trouvait quasiment poussé vers le haut par les sergents qui se bousculaient derrière lui. Se couvrant du bouclier, il gagnait marche après marche, malgré les estocades terribles qui perçaient parfois son écu ou faisaient sonner son aume.
« Reculez encore, de quelques pas !» cria le chevalier aux épines à l'Oiseleur. « Sur le palier, nous pourrons combattre à 2 contre 1 !»
Alors qu'Hamelin armait un nouveau coup, il parut incliner légèrement le bec du haume. Mais peut-être était-ce une façon de mieux prendre la mesure de l'adversaire plutôt qu'un signe d'assentiment. Le sire de Vaumacel n'en sut jamais rien. Surchargé sous la masse des combattants, ébranlé par les chocs et le piétinement, le vieil escalier rompit soudain avec un gémissement d'arbre abattu. Toute la volée de marche s'effondra d'un seul tenant, tel le manche d'un outil appuyé à la ridelle d'une charrette qui se met en branle. La bousculade de sergents et de chevaliers fut aspirée en bloc par l'affaissement. Edan, qui se trouvait au sommet de l'escalier, eut tout juste le réflexe de tomber un genou sur le bord du plancher et vacilla dangereusement un pied soudain dans le vide. En s'abattant sur le palier inférieur, le conglomérat de lisses, marche contre marche et combattants cuirassés ébranla toutes les charpentes et, dans un vacarme de navire drossé contre un récif, la loggia percutée céda à son tour. Dans un tumulte qui ébranla la tour entière, toute cette partie de la bibliothèque croula, avalant l'aventureux et ses adversaires dans un maelstrom de planches disloquées, solives arrachées, ainsi qu'un monstrueux basculement d'armoires, de coffres et de pupitres. Obscurcissant toute la salle, un énorme nuage de poussière souleva des quintes de touche et les rescapés de la catastrophe. Les violents courants d'air qui continuaient à siffler modelèrent des fantasmagories macabres dans ses bouffées avant de commencer à les dissiper comme à regret. Lorsque la fumée fut moins épaisse, le sire de Vaumacel découvrit par la trappe que venait d'ouvrir l'effondrement une chute de près de 20 pieds. Au fond, un énorme cône de débris se hérissait de poutres fracturées, de lattes fendues, de meubles éventrés, de dépouilles brisées que recouvrait une multitude de reliures éparses et de feuillets arrachés. Non loin du porche d'entrée, 4 miraculés considéraient avec effroi l'écroulement qui avait failli les ensevelir. Bien qu'ils fussent aussi poudreux que des meuniers, le grand harnois de l'un d'entre eux restait très reconnaissable. Méléagant de Bromel avait échappé au désastre. Il reprit rapidement ses esprits et requit du renfort à grands cris. Soulagé de l'entendre, la duchesse l'appela du haut des balcons restés en suspens. Levant la tête dans sa direction, le seigneur de Vert croisa le regard d'Edan, toujours en équilibre instable au-dessus de l'éboulement. Alors le prince ducal se mit à hurler avec rage.
« Des échelles ! Des échelles et des hommes ! Qu'on en finisse !»
Secouant sa stupeur, le sire de Vaumacel se remit sur pied et, sans tenir compte de la douleur qui lui labourait le flanc, courut vers ses servants et sa captive. Plus encore que la menace représentée par Méléagant, il craignait un second éboulement. Plusieurs poteaux qui soutenaient la structure des mezzanines avaient été emportés par l'effondrement. Toutes les loggias encore en place, fragilisées, grinçaient de façon sinistre.
« Montez !» aboya-t-il. « Gagnez la salle supérieure, tout de suite !»
Mais Odéhard lui opposa une attitude rebelle. « Fuyez si cela vous chante !» railla-t-elle. « Encore que vous n'irez pas très loin. Votre méchante pie est ensevelie. Quant à vous, vous n'oserez pas me férir. Je ne bougerai pas. J'attends mon fils.
C'est folie !» gronda Edan. « Les charpentes vont céder d'un instant à l'autre. Si vous restez, vous rejoindrez votre fils sous un monceau de décombres. »
Et sans plus discuter, le sire de Vaumacel happa le coude de la duchesse pour l'entraîner avec lui. Qu'elle avait pris les devants et gravissait les volets de marche avec une vivacité d'écureuil. Nem, le souffle court, essayait de le suivre le plus rapidement possible en semant derrière lui un chapelet de gouttes écarlates. Odéhard se débattit d'abord avec une vigueur qui fit chanceler Edan et manqua de lui faire lâcher prise, mais la brusquerie de ce geste produisit un gémissement torturé dans le parquet, et le couple sentit un infime affaissement des solives. Cessant de résister, la dame ne se fit plus prier pour fuir. Dans une envolée de jupe plus rapide que le chevalier alourdi par ses armes et sa blessure, elle prit les devants et grimpa le dernier escalier avec une prestesse dégingandée. Elle surgit sur les talons de Nem alors qu'il atteignait la porte située juste sous la demi-rotonde. Odéhard fit mine de s'arrêter au niveau de l'écuyer, laissant peser sur lui un regard trouble, plein d'une commisération féroce. Puis, le dépassa brusquement dans un grand froissement d'étoffe et de parfum. Qu'elle, de crainte d'être rattrapée par sa persécutrice, fila devant sans demander son reste. La duchesse le suivit dans le corridor, avec la retenue du chat qui s'amuse à laisser de vains espoirs à la souris. Elle se désintéressa d'ailleurs du page lorsqu'elle parvint dans la haute salle abandonnée, intriguée par l'édicule aux cinq colonnes qui en occupait le centre. Derrière elle, le sire de Vaumacel avait senti les marches de bois et le plancher de la plus haute galerie frémir dangereusement sous son pas. Il avait fait la sourde oreille aux vociférations du seigneur de Verre, ainsi qu'aux premières râles remontées des décombres. Nem, les mains appuyées sur les genoux, paraissait l'attendre sur le seuil de la grande salle au pentacle. Mais en arrivant à sa hauteur, le chevalier réalisa combien son compagnon paraissait mal en point. Rengainant l'épée et suspendant le bouclier sur son dos, il épaula son écuyer pour reprendre la marche. En lui posant la paume sur la poitrine, non loin des deux enfoncements dans la brigandine, Edan vit son gantelet se couvrir d'écarlate.
« J'ai froid, »
grommela le vieux valet d'armes.
« Il faut absolument arrêter l'effusion de sang, » murmura le chevalier.
Tablant sur le fragile répit que leur laissait l'effondrement des galeries et le transport des échelles, Edan entraîna Nem vers une chaire vermoulue et l'y assit dans un nid de vieilles toiles d'araignée. Il releva son mésaille, laissa choir son écu pour être plus libre de ses mouvements, puis déchira de larges bandes de sa cotte d'armes, en fit une charpie improvisée et la fourra sous l'armure de son compagnon. « Nous te penserons mieux dès que nous serons en sûreté, » dit-il d'un air de regret. « Pour l'heure, nous devons fuir par les Luiselles. Te sens-tu capable de marcher ?» L'écuyer hocha la tête, puis désigna le flanc ensanglanté de son seigneur.
« Vous aussi, vous êtes gravement touché. Il faut bander cette blessure. »«
Plus tard, » éluda le chevalier. « Vidons d'abord les lieux. »«
C'est vous qui allez vous vider. »«
Pas encore. Il me reste de la ressource. »
Mais l'écuyer posa la main sur l'avant-bras de son seigneur dans un geste d'avertissement.
« Plus tant que cela, »
lâcha-t-il d'une voix sourde. Et du menton, il désigna le blason du bouclier à terre. Gondolé par tous les chocs essuyés au cours du combat, ses couleurs avaient été en partie arrachées. Sur le champ d'argent abondamment éraflé, on ne distinguait plus qu'une seule épine de sinople. Eddan, déjà pâle, blêmit davantage. Toutefois, il se recomposa très vite une contenance. « C'est toujours plus qu'il n'en faut », énonça-t-il en haussant les épaules. Pendant ce temps, la duchesse tournait lentement, quoique d'un pas parfois dansant, autour de l'édicule et de ses draperies effilochées. Ses louvoiements lui permettaient de contourner les flaques de jour épandues par les fenêtres en ogive sur le dallage poussiéreux. Elle gardait à l'œil Kell, qui veillait toujours à rester de l'autre côté du grand baldaquin, tout en cherchant activement quelque chose. Quand Eddan aida Nem à se relever, elle leur jeta un regard plein de condescendance. « Comme il est fâcheux que vous ayez tué mon directeur de conscience, » railla-t-elle. « Vous voici dans une pénible extrémité. Seuls les secours de la religion vous seraient encore de quelque utilité. » Par la porte restée ouverte sur la demi-rotonde de la librairie, parvenaient plus que jamais les rugissements de Méléagan, les craquements des galeries fragilisées et les cris lamentables des mourants. Un violent courant d'air remontait également dans la haute nef où les fugitifs avaient battu en retraite. Le vent tourbillonnait autour de l'édicule central, froissant les guenilles qui avaient habillé ses arcades, remontait en spirale jusqu'aux vitraux descellés des murailles, agitait les toiles d'araignées appendues aux voûtes. Désignant la salle désaffectée, Odéhard émit un rire teinté de dérision. « Non seulement vous avez violé votre parole, foulé aux pieds les lois de l'hospitalité et de la courtoisie, mais vous venez également de profaner la coutume de verre, » observa-t-elle sur un ton plus amusé que vindicatif. Depuis la disparition de Sénargin à Chrysophée, les appartements du mage ont été frappés d'interdits. Or, nous y voici. Pour quel bénéfice? Vous serez bientôt délogé de ce perchoir et vous aurez aussi à répondre de cette transgression. La bise qui s'engouffrait dans ce repère abandonné chuintait le contrepoint de la cacophonie soufflée à l'extérieur dans les créneaux, les machicoulis et les girouettes. Elle continuait à brasser des tournoiements de poussière où se convulsionnaient silhouettes étiques, gestes hagards et figures tourmentées. Certaines de ces ombres s'échappaient par des verrières crevées avant de réapparaître par une cassure voisine. Eddan vit néanmoins qu'un regroupement vague, mais de plus en plus nombreux et bouillonnant, semblait s'agréger autour de la duchesse. Celle-ci, dans la pénombre où elle s'était réfugiée, pâlissait à mesure qu'enflait son cortège fantomal. Le nimbe qui décolorait ses mains et son visage, loin de lui accorder un semblant de clarté, obscurcissait l'attroupement dont elle devenait le cœur. Insensiblement, il la couronnait d'une auréole de ténèbres. « Détrompez-vous, dame. » « Il existe une issue, » répondit le chevalier en s'efforçant de ne rien montrer de son trouble. « Nous allons l'emprunter, et une fois que nous aurons gagné une retraite plus sûre, je vous instruirai de mes conditions. » La duchesse lui renvoya un ricanement de dédain, rempli d'échos sépulcraux. Feignant d'ignorer cette inquiétante gaieté, le sire de Vaumacel s'adressa à son page. « Kell, hâte-toi de nous retrouver cet escalier. » Tout en gardant ses distances avec Odéhard, le petit valet gagna le baldaquin de pierre et entreprit de soulever l'un après l'autre les voilages de ses arcades. « Chevalier, je suis tenté de rester pour assister à vos derniers instants, mais je suis las de vos mauvaises manières. » reprit la dame avec un timbre caverneux. « Mon fils ne tardera plus, même si les ravages que vous avez commis dans la librairie gênent une échelade. Vous n'avez plus de complice pour défendre la voie aérienne que vous avez eu l'impudence de me faire prendre. Dans l'état qui est le vôtre, vous serez incapable de soutenir un nouveau combat. Pour la dernière fois, rendez les armes. Si vous jurez de ne point me calomnier, peut-être serai-je en mesure de sauver votre vie. Je m'emploierai à convaincre mon fils de proposer au duc un échange avec Blancandin.
Le duc n'y consentira jamais, répondit uniment Edan.
Odéar débaucha un geste négligent de la main.
Bien sûr, vous ne pesez pas un bromel, convint-elle avec dédain. À vrai dire, vous ne pesez pas grand-chose hors l'infamie, mais je vous emballerai avec d'autres concessions, plus substantielles.
Nous nous sommes mal compris, dame. Le duc ne voudra jamais me racheter parce que je ne suis pas son homme. Je n'ai pas trahi mes engagements. Ce n'est pas lui qui m'envoie à vous.
Je n'en crois rien. Vous osez me soutenir, à moi, que vous n'avez pas trahi vos engagements. Je pourrais vous faire trancher la langue pour avoir eu l'impertinence de me tenir pareil discours. Après tout, quel besoin en aurez-vous pour servir votre nouveau maître?
Je reconnais volontiers que mes actes plaident contre moi. Et pourtant, dame, sur mon honneur, je vous le jure, je ne sers pas le duc et je n'ai pas renié les engagements que j'ai pris envers vous.
La dame partit d'un nouveau rire qui se répercuta en écho lugubre sous les arcs brisés. « Votre honneur, chevalier, a autant de crédit que l'escarcelle d'un gueux. Ne deviez-vous pas vous présenter devant la cour ducale? Vous avez une singulière façon de plaider ma cause auprès de mon mari. Si ce n'est lui qui vous envoie, je suis curieuse d'entendre quelle sornette vous invoquerez pour justifier l'injustifiable. »
Tout en répondant, le sire de Vaumacel coula un regard inquiet à son page qui agitait vainement les vieilles tentures du baldaquin.
« Hélas, dame, je suis le premier mari par l'action que je suis contraint de mener. Je confesse que je viens de commettre d'impardonnables méfaits. Et pourtant, je ne suis pas la main de votre époux et je ne me suis pas réellement dédié de mes obligations envers vous. Qui m'a commandé de m'en prendre à vous? La belle personne à qui j'ai jadis prêté hommage, bien avant que j'aie eu le privilège de vous rencontrer. Les malheureux compagnons que je viens de perdre en attestent. Les aventureux du bois oiselé viennent des cinq vallées. C'est la dame des futaies bleues qui nous a dépêchés. Non, son Altesse ducale.
Je m'attendais pourtant à quelques fables, mais je dois reconnaître que vous vous surpassez, chevalier. Quel conte extravagant!
Telle est pourtant la vérité. Vous conviendrez avec moi qu'en termes d'extravagance, votre rétablissement n'a rien à envier à mes discours.
Et vous avez donc le front de vous excuser en invoquant la malveillance d'une rivale?
Ne vous méprenez point sur les raisons de cette dame. La jalousie ne motive nullement son entreprise, mais plutôt la haine sans rémission contre le culte qui vous a ranimé. Elle ne conteste pas vos prétentions légitimes, pour lesquelles, du reste, elle ne manifeste guère d'intérêt. Elle se dresse seulement contre ce que vous êtes devenu.
Et que m'importent ces raisons? En mettant votre bras à sa disposition plutôt qu'à la mienne, c'est votre trahison qui fait d'elle ma rivale.
Ma trahison, dites-vous, le mot est blessant. Mais je ne vous en ferai pas grief, car je confesse que je vous ai agressé. Pourtant, examinez froidement la situation, madame.
que je sois votre ravisseur. N'empêche point que je reste votre serviteur.
Mon serviteur !
S'étrangla Odéhard.
Quelle outrecuidance ! Eh bien, prouvez-le ! Libérez-moi et livrez-vous à mon fils !
Je crains de ne pouvoir satisfaire cette volonté. Il en va des serviteurs les plus utiles comme des amis les plus sincères. La loyauté leur interdit parfois d'être complaisants. Ce ne serait point vous rendre service que vous remettre sous la protection de Monseigneur Méléagant.
L'impudence de vos raisons ne suffit pas à en masquer la faiblesse. Mais qu'importe ? Mon fils et ses gens seront là d'un instant à l'autre. Ils se passeront de votre accord pour me délivrer. »
Pendant cet échange, Nem avait regagné à petits pas la porte et jeté un coup d'œil prudent vers les profondeurs de la bibliothèque. Malgré ses traits crispés de souffrance, il prêtait aussi l'oreille à la passe d'armes entre la captive et le chevalier. D'un signe de tête, il mit en garde son seigneur.
« Les échelles arrivent, » avertit-il. « Elles sont trop longues pour la courbe des escaliers. Monseigneur Méléagant les fait hisser par les fenêtres. Cela nous laisse peut-être encore quelques instants de répit, mais l'assaut ne tardera plus. »
Se tournant alors vers son page, le sire de Vaumacel s'écria de façon pressante,
« Eh bien, quel ! Ce passage dérobé !»
Le freluquet qui déchirait de grands lambeaux dans les antiques voilages sans autre succès que soulever davantage de poussière, ouvrit les bras dans un geste de frustration.
« Je ne le retrouve pas !»
s'écria-t-il en frappant du pied.
« Je ne peux quand même pas l'inventer !»«
Nous sommes pourtant arrivés par là !»
s'irrita son maître.
« Il faut bien qu'il existe !»«
Sitôt que nous avons retrouvé le jour, nous avons perdu cet escalier !»
trépigna-t-elle.
Sir Hamelin a parlé des mystères de l'entremonde tout à l'heure. Toujours un pas de côté, qu'il disait. Mais je ne fais que cela, des pas de côté. Est-ce qu'il ne pouvait pas être plus clair? Ah, mais quelle idée il a eue de se faire tuer!
Nous sommes arrivés à l'intérieur, dans la chambre formée par les cinq colonnes,
rappela Nem.
Et si c'était un tour de magicien? Et si le passage n'était accessible que depuis ce cercle?
Sans attendre que le chevalier lui en donnât l'ordre, Kell bondit au centre du ciborium, disparaissant derrière les tentures en loc.
« Alors ?» s'enquit Edan.
« Rien de rien !»
pesta la voix étouffée du freluquet. Avec un soupir, Nem quitta son poste de guet sur le seuil et rejoignit le page pour le seconder. Le chevalier invita du geste la duchesse à les suivre, mais Odéhard lui rit au nez.
« Portez encore la main sur moi, et je vous arrache les yeux, »
s'indigna-t-elle. « Telle n'est pas mon intention. En vérité, il est désormais dans votre intérêt de nous suivre. »
« Et dans le vôtre d'aller vous faire pendre. Cela vous épargnera de cruels tourments. »
« Je ne doute pas que Monseigneur Méléagant me réserve un sort terrible. Le châtiment qu'il brûle de m'infliger est certainement à la hauteur de l'amour qu'il a pour vous. Du reste, je suis persuadé que vous lui rendez une affection au moins égale. Or, justement, dame, voilà pourquoi il est dans votre intérêt de nous accompagner. En fait, vous agirez dans l'intérêt de vos fils. »
La duchesse faillit répondre avec raillerie ou emportement, mais ravala ses paroles. Elle scruta son ravisseur avec une défiance circonspecte, comme le loup qui flaire soudain les mâchoires du piège sous l'appât.
« Monseigneur Méléagant vous aime, au point de vous avoir fait revenir parmi les vivants, » poursuivit le sire de Vaumacel. « Pour ce faire, il a pactisé avec une secte maudite, transgressant un interdit vieux de 2 siècles. Votre entourage a tenté de dissimuler cette folie et a fait courir la rumeur d'un rétablissement miraculeux. Peut-être le subterfuge aurait-il pu fonctionner. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, après que toute la garnison vous a entendu crier et vous a vu craindre la lumière du soleil,
la vérité ne pourra plus être étouffée très longtemps. On saura ce que vous êtes devenu, et cela ne fera que renforcer le camp de Son Altesse Ganelon. Si vous restez auprès de votre fils, votre seule présence suffira à ruiner ses prétentions à la succession ducale. La noblesse bromaloise se détournera de vous et ralliera le camp de votre mari. Défendu par les murs de verre, peut-être tiendrez-vous quelques mois ou quelques années, jusqu'à ce que la fortune des armes penche en faveur du duc ou du roi Hardclyde. Toutefois, quel que soit le vainqueur, il vous sera hostile. Même si le duc meurt, la loyauté de ses vassaux reviendra à l'enval de Bromel et non à vos enfants. Voilà pourquoi je vous enjoins de nous accompagner. En restant, vous condamnez vos fils. En disparaissant, vous sauvez leur légitimité.
Odéarde réagit d'abord par un haussement de menton plein de dédain, comme si pareille considération lui était importune. Mais le masque sévère qui creusa un peu plus sa figure montrait que l'argument avait touché. « Si vraiment vous souhaitez préserver les droits de mes fils, lâcha-t-elle avec raideur, pourquoi ne pas avoir laissé votre comparse me faire un sort ?
Bien que j'aie été contraint de vous traiter en ennemi, j'ai refusé d'agir en parjure et en meurtrier.
Vous m'en direz tant. À quoi bon du reste ? Tout le monde dans le duché sera convaincu de votre félonie.
Peut-être suis-je perdu de réputation, mais mon honneur demeure sans tache.
Vous vous aveuglez, mon pauvre ami. En vous attaquant à moi, vous avez violé vos engagements. En m'épargnant, vous désobéissez à cette prétendue dame des futaies bleues. Par quel bout qu'on vous prenne, vous n'êtes qu'un félon.
Le sire de Vaumacel poussa un soupir las, en portant la main au flanc qui le faisait souffrir. Du côté du baldaquin, il entendait la querelle de ses servants, incapables de retrouver le passage dérobé. Du côté de la librairie, de nouveaux éclats de voix signalaient l'arrivée d'une échelle.
« De toute façon, se plut à relever la duchesse, vos gens ne trouvent rien et les miens arrivent. Rompons là cette discussion, à quoi rime-t-elle désormais ?»
Et pourtant, il eût mieux valu pour vous disparaître avec moi qu'être secouru par Monseigneur Méléagan,
objecta sombrement Edan.
Vous êtes démasqué, dame. À moins de faire disparaître toute la garnison, votre cause est perdue.
Eh bien, je vous remercie de m'en avoir avisé. J'en délibérerai avec mon fils à tête reposée. Soyez certain que nous trouverons une solution à cet embarras.
La meilleure des solutions serait que Monseigneur de Méléagan crût véritablement à votre disparition. Cela couperait rapidement court aux soupçons sur votre état. Mieux encore, la violence de sa colère, en témoignant de sa sincérité, ferait passer au second plan les arts interdits auxquels il s'est prêté.
Vous raisonnez trop court, chevalier. Si vous m'enlevez, cela accréditera toutes les calomnies qui nous ont éclaboussées, vous et moi. Ganelon aura alors beau jeu de jeter le soupçon sur la naissance de mes enfants. Et cela ruinera les droits que vous prétendez sauver.
Vous dites vrai, dame. Voilà pourquoi je ne puis faire de vous ma prisonnière. C'est également la raison pour laquelle je dois me disculper devant la cour ducale.
Et devant la mine soupçonneuse de la duchesse, le chevalier précisa sa pensée.
La dame des futaies bleues m'a commandé de vous faire disparaître. J'exécute ses ordres, mais sans me dérober au devoir que j'ai envers vous. Vous abattre et vous soumettre à d'odieuses mutilations, comme l'envisageait le malheureux chevalier Hopi, était intolérable. Cela dérogeait à toutes les lois de la courtoisie. De la façon que j'envisage les choses, c'était également inutile. Sans vouloir vous offenser, dame, cela n'a pas le sens commun de tuer les morts. Pour régler la question, il suffit simplement de vous amener dans votre dernier séjour. Nous n'avions que peu de chemin à faire. La nécropole est au pied du château. Une fois que je vous aurai confié au prêtre du desséché, j'aurai pu honorer la promesse que je vous ai faite et me rendre aux forces du Khal. En me constituant prisonnier, j'aurais fait la démonstration que nous n'avions pas fui ensemble. Et j'aurais pu plaider notre innocence, comme je m'étais engagé à le faire, ainsi que transmettre au duc vos volontés posthumes. Du bas de la librairie remontait à présent un tohu-bohu de poutres, de planches et de meubles déplacés, tandis qu'on déblayait une aire pour poser des échelles. Un sourire narquois plissait le visage émacié de la duchesse. « Que voilà de beaux contes » railla-t-elle. « Est-ce le plaidoyer que vous improvisez en prévision de votre capture ?» Après avoir eu le courage de donner l'assaut au château de verre, « croyez-vous que je n'aurais pas le cœur à faire ce que je dis ?» Au même moment, la voix au perché de Kell retentit sous les voûtes.
« Là ! Là ! L'escalier !»
Et le page jaillit hors des draperies loqueteuses. Son expression triomphante se mua presque aussitôt en sidération, tandis qu'il regardait autour de lui.
« Qu'est-ce que... Mais enfin, il était ici !»
s'écria-t-il estomaqué. La mine furieuse, il retourna sous le baldaquin. Malgré son caractère dérisoire, quelque chose dans ce manège avait toutefois capté l'attention du chevalier et de la duchesse. À l'instant où le galopin avait jailli hors de l'édicule, une saute de vent avait infléchi les courants d'air qui tourbillonnaient dans la salle et fait gonfler les étoffes des arcades. Odéharde s'était laissé aller à avancer d'un pas, tandis que le halo obscur qui la nimbait avait légèrement dérivé vers le ciborium. Le phénomène se dissipa sitôt esquissé. Il fut suivi par un contraste lumineux qui métamorphosa la salle d'évocation. À l'extérieur, les bourrasques achevaient d'éparpiller les nuées. Un soleil brillant jeta soudain une pluie d'or par les vitraux brisés. Les figures mouvantes qui s'enroulaient dans les spires de poussière se résorbèrent hors des rayons, tandis qu'Odéharde, secoué par un grand frisson, reculait vers un mur. « Rejoignons mes gens, » intima Edan. « Sous ce dais, vous serez à l'abri. » Ignorant la main que lui tendait le chevalier, la duchesse s'élança. Elle suivit une course contournée, mettant ses pas dans les ombres projetées par les piliers, les colonnettes et les arcs trilobés avant de s'engouffrer dans le refuge formé par le pavillon. Le sire de Vaumacel mit quelques instants à la rejoindre. Il tendait l'oreille vers la librairie. Des raclements, un choc sourd et des grincements de charpente lui apprirent qu'une échelle au moins venait d'être calée. Avec un soupir, il s'apprêta à défendre le seuil de leur retraite. Quand éclatèrent de rechef les piaillements de Kell.
« Voilà, là, l'escalier !»
Enveloppé par un nouveau courant d'air, le chevalier décrocha aussitôt pour rejoindre ses servants et la dame. Toutefois, à peine se glissait-il dans la loge centrale que son page éclatait de rechef en cri de frustration.
« Bon sang, ce n'est pas croyable !»
Bien fait le petit drôle.
« J'ai vu le passage du coin de l'œil, juste là, à côté de Nem !»
Mais le voilage des penaillés qu'il soulevait sous une arcade ne donnait que sur une portion de la salle éblouissante de lumière. En comparaison, le sire de Vaumacel trouva l'intérieur du baldaquin d'une noirceur de cave. On y sentait plus qu'on y voyait la présence de la duchesse, qui paraissait engoncée dans un grand manteau de nuit. Le chevalier fut aussi frappé par la mine blafarde de son écuyer, appuyé contre l'un des piliers. Trop hâtivement soigné, le vieux valet d'armes perdait visiblement ses forces. D'une main,
il comprimait les charpies sur ses blessures, et son maître devina plus qu'il ne vit que ce pansement grossier se révélait insuffisant. Kell s'en rendit également compte. Il se récria soudain avec entrain « Mais tu saignes, Nem ! Tu saignes sur le pentacle ! C'est toi qui ouvres le passage ! »
De fait, la charpie imbibée n'arrêtait qu'imparfaitement les hémorragies du vieux valet d'armes. Le sang imbibait le velours de sa brigandine et marquait le pilier contre lequel il s'était appuyé. Une nouvelle goutte vint souiller à ses pieds l'une des branches du talisman gravé dans le dallage. Du coin de l'œil, le chevalier, la duchesse et le page perçurent alors une brève fantasmagorie, comme un reflet fugitif qui glisse dans une fenêtre que l'on ouvre. L'une des arcades donnant sur la salle ensoleillée se rembrunit. Les ombres projetées sur le sol par les montants des fenêtres se ployèrent en une contorsion fugace qui laissa entrevoir l'épure de quelques marches, juste avant que s'évaporât l'apparition. Mais le temps d'un battement de cœur, tous sentirent un appel d'air venu de ce mirage.
« La magie du sang !»
jubila le page.
« Si Ramlin nous l'avait dit, c'est ainsi que ça marche. Mais tu n'en donnes pas assez, Nem, presse-toi donc plus que cela !»«
Il suffit, méchant drôle !» gronda Edan. Au même moment, une rumeur alarmante leur parvint du seuil. Des grincements et des craquements de charpentes fragilisées accompagnaient des voix et des pas dangereusement proches. Leurs poursuivants avaient franchi les étages effondrés et remontaient les loggias encore en place. Le sire de Vaumacel joua alors son vatou.
« Plaise au resplendissant que tu aies deviné juste qu'elle !»
s'exclama-t-il en retirant son gantelet gauche. Ayant sorti sa dague hors du fourreau, il s'entailla profondément la paume et le poignet jusqu'à ce que la lame vînt buter contre le canon d'avant-bras. Le sang jaillit aussitôt à grosses saccades. Brandissant son bras blessé, poing vers le bas, le chevalier en aspergea tour à tour les cinq branches du pentacle, non sans maculer ses compagnons.
« Allez, vilaine tête de cerf, ouvre-nous ton nuit !»
s'écria Kell en battant des mains. Les insensés sentirent à nouveau l'appel d'air avant même de voir quoi que ce fût. Puis, alors que l'atmosphère demeurait ensoleillée derrière quatre des arcades du ciborium, elle s'altéra derrière la cinquième. La lumière s'y teinta des éclats rougeâtres d'un crépuscule. Les ombres tracées sur le sol par les remplages rosacés et trilobés du fenestrage se contorsionnèrent en figures grotesques. Un instant, elles dessinèrent presque des enroulements reptiliens autour de rameaux de cerf. Puis, la figure se stylisa en un labyrinthe circulaire avant de s'épurer en colimaçon. Une buée d'obscurité vint découper le relief des contremarches. Avec des souffles gémissants, les ombres qui s'agrégeaient autour de la duchesse dérivèrent vers ce portail, telles les eaux d'un fuyant débondé. Poussant un cri de joie, Kell fut le premier à bondir dans l'escalier à vis, au mépris de toute précaution. Du reste, le temps n'était plus à la prudence. Des silhouettes hostiles venaient de s'encadrer dans l'entrée de la salle. Comme Nem hésitait à suivre le page, le chevalier le bouscula vers les marches. La duchesse, quant à elle, essaya de se dérober et cria le nom de son fils. Edan la ceintura de son bras valide et lui plaqua sa main entaillée sur la bouche. Serrée contre lui, elle le glaça par un sentiment d'hostilité osseuse. Il essaya une première fois de l'entraîner vers le passage dérobé. Elle lui résista avec tant de hargne que ce fut elle qui le tira d'un bon pas dans la direction opposée. Elle vibrait d'une vigueur si furieuse que les forces déclinantes du chevalier paraissaient surpassées. Un coup du sort vint pourtant renverser la situation. En appliquant sa paume blessée contre les lèvres exsangues d'Odéhard, Edan lui fit accidentellement goûter son sang. La duchesse en éprouva un transport inattendu. Brusquement, toute colère et toute velléité de résistance oubliée, elle referma ses deux mains sur celle qui la muselait et se mit à téter goulûment la plaie. Luttant contre la faiblesse, le sire de Vaumacel parvint alors à la traîner vers les ombres du portail. Le couple scandaleux s'y engloutit à reculons.
tels deux spectres aspirés par le tombeau. Un instant plus tard, Méléagant de Bromel et ses gens de guerre fondaient sur le baldaquin. Ils n'y trouvèrent que des hardes déchiquetées et des éclaboussures sanglantes.